Sur ce sentiment inconnu, dont l'ennui, la douceur m'obsède, j'hésite à apposer le nom,
désespoir.
Le beau nom grave de tristesse.
Vous vous rendez compte de votre état ?
La mélancolie.
Vous avez envie de guérir ou vous n'avez pas envie ?
Remède.
Ce que je veux avant tout, c'est que les gens se soignent.
À la mélancolie. Eva Mester.
Appelez-moi docteur.
Bonjour à tous et bienvenue dans cette émission préparée par Corinne Valente, réalisée par Eliane Girard et Frédéric Milano, et mise en musique par Muriel Pérez, aujourd'hui à la technique, Antoine Espel. La gourmandise ce matin est une citation de Victor Hugo en Bon Joueur qu'on peut trouver dans le recueil Actes et Paroles depuis l'exil paru en 1876. Dans le cas où certains auditeurs ne connaîtraient pas la légende qui entoure le roi Mithridate le Grand, elle raconte que le souverain prenait de façon répétée de faibles doses de poison dans le but d'être immunisé. Cela a notamment donné le verbe mithridatiser et voici la citation d'Hugo. Je suis le Mithridate de la critique. Vous comprendrez que j'ai fini par m'endurcir, moi qui depuis 38 ans, suis accoutumé à être tué tous les 15 jours par la Revue des Deux Mondes. Poétesse, écrivain et traductrice née à Tokyo, notre apothicaire de l'âme étudie d'abord le journalisme au Japon, puis l'histoire de l'art à la Sorbonne. Après plusieurs allers-retours dans les deux pays et un doctorat en littérature comparée et en études culturelles, elle s'installe à Paris et commence à traduire elle-même en français ses textes déjà publiés pour les partager avec ses amis. Elle traduit ensuite en japonais des auteurs comme Michel Houellebecq, Patrick Chamoiseau, Jean Echenoz, Atik Raimi ou Emmanuel Carrère, et en français des auteurs japonais, romanciers, poètes ou mangaka. Cette experte en délicatesse est également la créatrice d'une œuvre singulière, poétique et raffinée. Qu'elle s'aventure dans la fiction ou dans la retranscription du réel, son verbe enchante autant qu'il l'affriande. J'ai appris ce mot en préparant cette introduction, puisqu'elle est aussi spécialiste de la bonne chère et que ses publications papier ou virtuelles forment un remarquable panorama des délices terrestres. Bonjour Ryoko Sekiguchi.
Bonjour.
Ryoko Sekiguchi, vous qui avez écrit beaucoup sur la nostalgie, je pense notamment à Nagori, la nostalgie de la saison qui s'en va. Nagori en japonais, c'est le reste des vagues, c'est ça?
Mmh,
c'est,
tout à fait.
Par exemple, contempler le dernier coucher de soleil de l'été.
Voilà, exactement, oui. Le dernier jour des vacances d'été, par exemple.
Alors, la nostalgie, vous connaissez, mais quel est votre rapport à la mélancolie?
Alors, mélancolie, mais je pense que j'ai... Je suis un pur produit de la nostalgie. Donc je pense que fait de 90% de la nostalgie. Et alors que mélancolie, je ne sais pas si j'ai déjà écrit une fois le mot mélancolie dans mes livres.
Si, je crois que je l'ai vu dans 961 heures à Beyrouth.
Très bien.
Je crois. En tant que détective de spleen, je remarque.
C'est vrai. Parce que j'ai l'impression que la mélancolie, pour moi, c'est il y a une sorte de d'inertie, ou bien il y a la perte de goût. Alors que, bon, voilà, pour quelqu'un comme moi, en fait, qui passe mon temps à manger et à sentir et à goûter, je ne peux pas supporter avec cette perte de goût à la vie, c'est un peu difficile à supporter.
Oui, c'est une jolie image, ça, Ryoko Sekiguchi. En fait, goûter le monde, la perte du goût du monde.
Moi, je qualifierais la mélancolie, oui, comme ça. Alors que, bon, on peut être à la fois nostalgique tout en dégustant la dernière figue de la saison.
Comment est-ce qu'on dit mélancolie en japonais?
Mélancolie.
C'est vrai? Oui. Ah, vous voulez dire que c'est une invention occidentale?
Non, mais en fait, on peut trouver, il y a une invention aussi de la traduction, donc en japonais, qui est yutsu, bien kentai, qui est très proche de dépression.
Oui, mais c'est une des définitions de la mélancolie.
C'est vrai. Oui.
Bon, alors vous vous en sortez bien, j'ai l'impression. Alors on va se réjouir avec vous, évidemment il y aura beaucoup de saveurs. Chers auditeurs, je vous annonce le sommaire. Dans quelques instants, Ryoko Sekiguchi convoquera des momies, des gens remplaçables mais uniques, Reynaldo Hahn, Jean-Sébastien Bach, Emmanuel Ecoccia, Etel Adnan, un comptoir, une trottinette, des fleurs et peut-être des fantômes. Nous sommes ensemble jusqu'à 11h.
Gardens and the ground.
Django associé à Charlotte Gainsbourg, le morceau Waking Up dans Remède à la mélancolie sur France Inter en compagnie de Ryoko Sekiguchi et de son panthéon anti-spleen.
Moi je crois que tout est création, la vie est création. On appelle ça pensée parce que c'est plus ciblé sur la communication. Quand on pense, mais la nuit et le jour, c'est-à-dire nous sommes vivants, tout est vie, et la vie prend des formes, comme l'électricité, comme l'amour, ça donne du chaud, ça donne du froid, on aime un arbre, on aime une personne, ça vient de la même chose, et la pensée, la poésie, même le fait de marcher, pour moi, tout se tient, il n'y a pas de coupure. Nous sommes dans un continu.
La peintre et poétesse libanaise Etel Adnan, dans Orchon sur France Culture en 2015, Etel Adnan qui est née d'une mère grecque chrétienne et d'un père syrien musulman et qui parlait petite grecque et turque dans une société arabophone. Je le signale car c'est toujours intéressant d'être à la croisée de plusieurs langues, comme vous, Ryoko Sekiguchi, qui vivait en France à l'instar d'Etel Adnan et dont la première traduction fut un texte d'Atik Raimi puisque vous lisez le persan.
Oui, à l'époque je lisais un peu le persan et puis comme il n'y avait pas de traducteur au Japon, enfin l'éditeur a fait appel à appeler voilà pour savoir alors que j'étais loin de d'être vraiment spécialiste de persan, pas du tout.
Mais comment vous vous êtes retrouvée à apprendre le persan?
C'est parce que d'abord j'ai commencé à apprendre l'arabe et que j'ai abandonné tout de suite parce que c'était trop difficile, mais puisque j'ai appris les lettres arabes, donc je vais apprendre un peu le persan et puis comme ça j'ai continué.
Alors Ryoko Sekiguchi, vous avez choisi le français par amour de la cuisine française.
Oui, je raconte toujours cette histoire en disant que, à l'arrivée à la fac, donc on devait choisir la deuxième langue étrangère, et puis donc entre plusieurs langues, je me disais bon, en apprenant le français, je vais bien manger. Mais ce que je ne connaissais pas à l'époque, c'est que je bois bien aussi.
Donc, ça c'est un peu universel, je crois.
Ça, c'est vrai.
Votre sérum littéraire, il est donc d'Etel Adnan, et c'est le prix que nous ne voulons pas payer pour l'amour, paru en 2015. C'est un petit livre d'artiste. Comment vous décririez cet ouvrage?
Déjà, c'est écrit par une personne qui est très courageuse. Et qui nous donne le courage, qui nous donne cette énergie, je pense que justement, et l'énergie à la vie est le meilleur remède contre la mélancolie. Et quand je suis un peu, quand je n'ai pas trop d'énergie, justement, je prends comme une sorte de médicament la dernière page, et rien que la dernière page, ce livre vaut l'existence.
Vous allez, j'espère, nous lire la dernière page, mais pour parler un peu de cet ouvrage aux auditeurs, en fait, elle voit la marche du monde à travers le prisme de l'amour. Le militantisme politique, c'est de l'amour, c'est de l'amour pour une cause. On parle aussi de l'amour de l'absolu, qu'on retrouve par exemple chez Nietzsche, et du risque inhérent à l'amour, puisque en fait on n'a pas envie d'avoir mal et on préfère la médiocrité à la passion, à l'amour qui est dangereuse.
Mais voilà, donc justement en fait ce petit livre en quelque sorte raconte comment lutter contre la mélancolie.
Oui, mais en prenant des risques et en prenant le risque d'être blessé.
Bien sûr, mais de prendre en fait ce risque de d'aimer aussi, donner un peu plus de d'énergie et de d'énergie pour s'affronter et pour risquer encore. Donc je pense que, et donc c'est un tout petit livre qui m'est vraiment gorgé de ce courage.
Et Ryoko Sekiguchi, ça revient à votre idée de début d'émission de goûter le monde, puisque en prenant des risques on participe au monde, justement c'est le contraire de la mélancolie où on peut être en retrait.
Bien sûr, mais je pense que en fait c'est le contraire de d'être en retrait. Je veux toujours être dans l'échange, dans la commerce, dans le bon sens de terme.
Oui, commerce comme le dieu Hermès qui faisait le messager entre tout le monde.
Voilà, oui, justement.
Est-ce que vous nous liriez cette dernière page du livre d'Etel Adnan, Ryoko Sekiguchi?
Bien sûr. Amoureux, on devient un oiseau. L'entend le cou et entend un chant que l'on n'attendait pas. On est sans voix. mais ils sont bien plus nombreux, ceux qui ne sont pas prêts à risquer leur vie pour un tel moment. Ils ne risqueraient même pas moins que cela, ils ne bougeraient pas. Ils sont effrayés, ils préfèrent rester dans leur médiocrité. On peut les comprendre. L'amour, sous toutes ses formes, est la chose la plus importante à laquelle nous soyons jamais confrontés, mais la plus dangereuse aussi, la plus imprévisible, la plus chargée de folie. Cependant, c'est le seul salut que je connaisse.
Ryoko Sekiguchi, est-ce que vous prenez des risques et est-ce que vous aimez beaucoup ? Je parle d'aimer les choses, les êtres.
Je pense que déjà quand on choisit d'être dans un pays étranger, bien sûr maintenant je suis confortablement disons installée, j'ai beaucoup d'amis, j'ai le travail, mais en dehors de toutes ces conditions disons matérielles, être dans un pays étranger c'est déjà être dans une terre qui n'est pas stable, qui n'est pas tout à fait stable, et avoir le courage, c'est déjà d'être sur un terrain où il faut toujours bouger, parce que quand la terre bouge, la terre est instable, vous savez, comme c'est sur une bulle, enfin le bal de yoga. Il faut trouver toujours l'équilibre et donc il faut trouver, moi je trouve le courage ou bien de prendre le risque dans ce sens-là, c'est que déjà être dans ce genre de position.
Ça ne vous fait pas peur, ça ne vous effraie pas, vous qui avez vécu dans différents pays, avez énormément voyagé?
Ah, quand je m'arrête, je meurs.
C'est vrai?
Oui.
Vous fuyez peut-être?
Ah, non, je...
Vous savourez?
Mais vous savez, c'est aussi pareil. Donc c'est en fait même quand on parle de la cuisine, si on reste toujours dans notre culture culinaire, on passe à côté de plein de délices.
Ryoko Sekiguchi, on parle d'amour et votre idée consolatoire s'inscrit dans la thématique, mais peut-être à rebours puisqu'il s'agit de penser que personne n'est irremplaçable, tout en considérant que tout le monde est unique. Alors tout le monde est unique, mais il y a des êtres humains qu'on aime plus que d'autres. Ils sont remplaçables?
Non, mais je parle de ça, c'est aussi pour cette phrase, je pense que elle est assez pratique. C'est, quand, par exemple, il se trouve que vous n'avez pas été pris pour un concours, ça arrive, enfin, vous ratez quelque chose. C'est pas seulement dans l'amour. Et vous êtes sur un projet et qui ne se passe pas très très bien, mais vous pouvez dire c'est vrai, en fait c'est si moi j'ai raté ce concours, mais enfin personne n'est irremplaçable. Mais en même temps, par exemple, le moment qu'on a passé, même dans la relation amoureuse, par exemple, on peut passer à une autre histoire, mais le moment qu'on a passé avec cette personne, ce moment-là est irremplaçable et unique.
Mais en cas de chagrin d'amour, par exemple, ce qui est quelque chose d'assez universel, Ryoko Sekiguchi, est-ce que vous considérez que la personne perdue est remplaçable?
Le chagrin d'amour n'a rien à voir avec la mélancolie.
Oui, mais là, je vous parle pas de mélancolie. Je vous demande, est-ce que vous pensez qu'on peut se dire, oh, cette personne était remplaçable?
Ben non, mais justement, je pense toujours que cette personne est. C'est pour ça qu'il faut penser que cette personne est remplaçable, mais ce moment était unique. Et c'est pour ça qu'on regrette et qu'on ne veut pas remplacer le moment qu'on aurait pu avoir et qu'on rate.
Oui, son rôle est remplaçable en fait et on s'en coupe peut-être.
Voilà.
En n'allant pas de l'avant. La danse d'Iba sur l'album Musique au temps des pyramides de Raphaël Pérez Arroyo pour introduire l'œuvre d'art qui vous enchante, Ryoko Sekiguchi. les portraits du Fayoum sur les momies, soit ces portraits funéraires réalisés entre le 1er et 4e siècle de notre ère en Égypte romaine et découverts à la fin du 19e. Comment vous décririez ces sarcophages, ces peintures, puisqu'il s'agit de peintures aux auditeurs?
C'est vrai, et donc ce sont les portraits des défunts.
Faits de leur vivant.
Voilà, et souvent assez jeunes. Aussi, parfois, il y a des enfants et qui nous regardent. En fait, on croise le regard avec ces peintures, avec ces personnes. Et alors, pourquoi c'est la remède? Parce que plutôt que de se projeter dans le passé lointain, moi, je sens leur présent venir juste devant nous. Et quand on croise le regard avec ces portraits de Fayoum, j'ai l'impression de les vraiment rencontrer. Et je pense, on peut presque croire que les personnes qui sont mortes ne sont pas toujours mortes. Enfin, on dit toujours oui, alors cette personne est dans son cœur. Non, mais c'est autre chose que ça. C'est-à-dire que le regard est intact. Le regard peint est intact et fait de son vivant et donc garde la vie et cette vie-là que les peintres ont vu que je rencontre et ça c'est vraiment salutaire, c'est-à-dire que le présent peut aussi revenir à nous cette vie que qu'on a pensé qu'en fait qui était perdue depuis des millénaires sont encore là.
Mais ça ne vous assombrit pas, Ryoko Sekiguchi, justement devant ces portraits du Fayoum, où il y a en effet ces pupilles noires magnifiques avec des petits points blancs qui montrent l'éclat de vie, justement, puisque à nouveau, je l'ai dit, mais le portrait était réalisé du vivant des individus. André Malraux disait que leurs yeux étaient les veilleuses de la vie éternelle, ça rejoint un peu votre idée. Ça ne vous assombrit pas de vous dire que ils sont là en apparence en forme et au présent, mais je veux dire, à l'intérieur, il y a un squelette ou de la poussière, je veux dire, il y a l'homme dégradé.
Ah non. Vous savez, enfin, j'ai beaucoup travaillé sur les momies.
Oui.
Enfin, il y a toujours un livre à venir sur les momies. Et je pense toujours que c'est vrai qu'en fait, quand c'est vraiment devenu squelette, tout le monde se ressemble. Il y a un côté memento mori, tout le monde meurt, tout le monde est, en fait, retourne à la poussière.
Ah oui, alors que les momies sont intactes puisqu'on a enlevé les organes.
Dès qu'il y a un morceau de peau, il y a en fait la personne existe et que qu'on peut reconnaître.
Je n'ai pas attendu les jours de canicule. Sentir nos corps qui brûlent, nos langues en feu, mon prince, mon Dieu. J'entends nos membres qui crépitent, du feu, de la dynamite. Tout tu te donnes autour de nous. Tout nous échappe, nos démons bouts. On se dilate, le pouls rapide, nos yeux clignotent au-dessus des parcelles de peau qu'on examine, les yeux mi-clos, 10 000 secousses au crépuscule, en vagues soyeuses nous inondent. En un éclair s'éclipse. Je n'ai pas attendu les jours de canicule pour sentir nos corps qui brûlent.
Françoise Brut, mes péchés s'accumulent dans Remède à la mélancolie sur France Inter, toujours en compagnie de Ryoko Sekiguchi. Nous vous avons demandé un film anti-splinétique et vous avez répondu une chose assez inédite dans l'émission, je vous lis. C'est la seule question à laquelle je ne saurais répondre. J'ai un problème de prosopagnosie et il m'est impossible de suivre l'histoire d'un film dès que le personnage change de tenue, hélas. D'ailleurs, ça me pose problème au quotidien, mais c'est une autre histoire. Donc, je ne regarde presque pas de film. Alors, la prosopagnosie, c'est le trouble de la reconnaissance des visages. Est-ce que vous pouvez raconter, s'il vous plaît, Ryoko Sekiguchi, l'anecdote avec Isabelle Huppert à Rome?
Ah oui, alors, donc, c'était... Bon, en général, donc, enfin, ce problème fait que je ne vais presque pas au cinéma, mais pendant que j'étais donc pensionnaire à la Villa Médicis, hein, donc il y avait une semaine donc consacrée à Isabelle Huppert, donc l'actrice était là, et il y avait la projection tous les jours en plein air, donc j'étais là avec les autres pensionnaires, je pouvais pas faire autrement. Bon, donc je regarde le film, je ne comprends rien à l'histoire, il y a des femmes qui n'ont rien à voir avec la femme que je viens de voir, donc qui passe, et donc je dis à mon voisin, alors quand est-ce qu'apparaît Isabelle Huppert? Il me dit, mais il est là depuis le début. Mais ça se passe comme ça quand je regarde un film, donc impossible de, dès que les gens changent de tenue, changent de décor, impossible.
Ryoko Sekiguchi, le premier CD que vous avez acheté à l'apparition de ce support média, vous deviez avoir 13 ans, c'est la cantate de Bach qu'on entend, la cantate BWV 140, aussi connue sous le nom de cantate du veilleur, dont je voulais que vous prononciez le titre en allemand, mais je vais pas vous tendre ce piège et je ne peux pas le faire non plus. C'est une cantate religieuse composée en 1731. Qu'est-ce qu'elle vous évoque ?
Alors, quand donc je suis dans par exemple dans le spleen, je pense à tout le chemin que j'ai fait depuis que j'ai découvert l'Occident. Donc l'Occident m'est apparu. Je sais pas autour de d'abord dans la littérature et ensuite. avec la musique. Et en fait, j'ai choisi cette musique parce que il y avait beaucoup de choses que je ne comprenais pas. Donc c'est et c'est aussi pour ça que c'était passionnant, ça m'attirait. Et bien que, enfin, je ne crois aucune religion. En fait, je voulais comprendre pourquoi cette croyance qui faisait aussi partie de toutes ces cultures aussi picturales, l'histoire de l'art, ne peut pas se comprendre sans comprendre le christianisme. Et je pense que je ne comprenais pas. Je voyais que c'était, il y avait un long chemin comme ça qui a. Et donc c'était les premiers pas, c'était la première musique et j'ai un peu chanté en fait. J'apprenais le chant, j'ai fait la musique aussi renaissance et baroque. Donc c'était mon premier pas pour m'approcher dans ce monde occidental où je me trouve aujourd'hui.
Et vous écoutez Ryoko Sekiguchi, la musique, sans rien faire d'autre, en vous imprégnant d'elle, ou elle vous accompagne?
Ah, en ce moment, la musique continue à m'accompagner, et même quand je travaille, j'écoute toujours la musique. Quand je n'écoute pas la radio, quand je traduis, je peux écouter la radio, en fait, même les émissions. J'ai toujours besoin de voix, sans les voix de quelqu'un d'autre, que ce soit le l'art vocal ou bien les émissions de la radio, je ne peux pas travailler.
Ah, c'est amusant ça.
Ouais.
Vous écoutez de la musique japonaise?
Très rare, voilà, justement.
Vous êtes éloignée de votre culture, en fait.
Je ne peux pas écouter la voix, disons, de la langue japonaise. Je pense que ça me perturberait pour le travail.
Et la musique classique japonaise?
Oh non, pas du tout. Ah, c'est vrai, je n'y avais même pas pensé.
Ryoko Sekiguchi, votre autre antidote musical, date de 1913. C'est un air imaginé par l'un des amours de Marcel Proust, le compositeur Reynaldo Hahn, et le morceau s'intitule Chloris et reprend un poème de l'écrivain du XVIIe siècle Théophile de Viau. Vous l'avez choisi dans l'interprétation du contre-ténor Philippe Jarouski. Alors Chloris, c'est la nymphe enlevée par le vent Zéphyr. Un mot dessus avant qu'on l'écoute?
Ah, c'est une tendresse, hein. et c'est vrai que c'est pas parce que qu'on connaît maintenant que donc qu'il était un l'amant de Proust que qu'on pense à ça, parce que qu'il a composé ce chant quand il avait 42 ans, donc c'est bien après, mais on sent un chant qu'on n'aurait pas pu écrire si on ne connaît pas l'amour.
Peux-tu
Remède à la mélancolie sur France Inter avec Ryoko Sekiguchi qui vient de nous faire entendre A Chloris de Reynaldo Hahn.
C'est pas que la philosophie, il y a une espèce d'étrange aveuglement mais actif, produit, consciente, qui s'est transmis, d'ignorance produite de génération en génération. Et qui fait que la plupart de nous, par exemple, n'a aucune idée de l'espèce de ces grands arbres qui est un cèdre du Liban. Et qui fait que, par exemple, même dans la vie quotidienne, on a la tendance à reconnaître les statuts des personnes et à donner des noms à nos chiens, à nos chats, aux petites bêtes, même à les petites tortues qui habitent notre appartement. Mais personne pense, par exemple, que ce cèdre qui a presque 200 ans mériterait d'être... avoir un nom, par exemple Samuel ou François.
Le philosophe Emanuele Coccia, dans l'entretien Infini pour la Fondation Cartier en 2019, Ryoko Sekiguchi, vous avez choisi une citation tirée de son ouvrage de 2016, La vie des plantes, une métaphysique du mélange. Et voici la citation. Souffler signifie être immergé dans un milieu qui nous pénètre avec la même intensité avec laquelle nous le pénétrons. Comment l'entendez-vous ?
C'est une chose qu'on oublie souvent, mais c'est vrai qu'à chaque instant, est un échange avec le monde qui nous entoure et de se rendre compte de cela est en soi un enchantement. C'est incroyable que vous avez mis ce passage là parce que nommer les plantes, et c'est ce que je me demandais toujours, mais pourquoi les gens ne donnent pas les noms aux arbres, et c'est ce que l'ami de toujours d'où était la donna fait. Et donc la sculptrice Simone Fatal donne les noms à ces arbres dans son jardin. Donc c'est tout
et vous,
bouclé, c'est incroyable.
Et vous, Ryoko Sekiguchi, vous donnez des noms aux fleurs, aux plantes?
Ah ça m'arrive de donner même les aux chenilles qui sont là dans mon bouquet que je pouvais jeter peut-être le lendemain.
Comment s'appelle la dernière chenille que vous ayez fréquentée?
Ah la dernière chenille. Ça s'appelait Dilo.
Dilo?
Dilo. Je l'ai jeté avant-hier.
Oh non. Bon, une pensée pour Dilo. Quel est votre rapport à la nature? Est-ce que vous avez toujours été fascinée par la flore, Ryoko Sekiguchi? Puisque je sais que l'un de vos remèdes, c'est de peupler votre appartement de fleurs, mais vraiment de le remplir littéralement, comme une mini-jungle.
Oui, mais je dis pas que c'est récent, parce que avant, j'avais des pots de plantes, 40 pots de plantes, quelque chose comme ça, mais quand on voyage, ce n'est plus possible, donc j'avais arrêté, et donc j'ai planté morée, comme les enfants rebelles, donc quand les parents ne s'occupent pas d'eux. Et l'année dernière, bien sûr, comme avec le confinement, j'avais soif de fleurs, j'avais soif de plantes. Et je commençais à me faire livrer par une floriste japonaise qui cultivait elle-même ces fleurs. Et comme de toute façon, on ne dépense rien de tout. Et donc, je mettais tout aux fleurs, c'était incroyable.
Mais des fleurs en pot ou des fleurs coupées?
Des fleurs coupées.
Coupées,
oui.
Et vous avez encore beaucoup de fleurs en pot chez vous?
Non, parce que je compte quand même bientôt voyager.
Hein? Oui, c'est comme des enfants.
Bah oui,
on les donne à chaque voyage.
Voilà.
20 complets, 65, 25. Un Vichy, ça va bien.
Il donne beaucoup de mal.
Prends un peu plus vite la monnaie, non, tu vois pas qu'on attend. Je t'ai reçu, donnez un coup de main, je vais essayer les verres, je vais les déborder. Demande pardon, monsieur Rugy, c'est cool.
Je vous laisse, à demain.
Le film Le Café du Cadran de Jean Géret, réalisé en 47, pour recréer l'atmosphère de l'activité qui vous réjouit, Ryoko Sekiguchi, c'est vous mettre au comptoir. Bon, ça doit vous manquer en ce moment.
Ah oui, j'adore le comptoir. Et j'ai même une cantine italienne, donc tenue par deux femmes. Et j'ai ma place au comptoir, et donc tout au bout. Mais ce qui est bien, c'est que donc je mange au comptoir, donc je dîne au comptoir, et chaque fois il y a à côté quelqu'un d'autre que je ne connais pas qui s'assoit, et parfois je parle avec lui ou elle, parfois non, et parfois je parle avec la sommelière. Parfois non, enfin parfois oui, non mais toujours, mais
toujours avec la sommelière,
voilà. Oui. Oui. Et c'est vrai que comme le métier de d'écrivain est un métier quand même solitaire, donc je passe mon temps, enfin ma journée, à être devant l'écran. Et là, après 18h, 19h passées, je prends ma trottinette, je descends la pente.
Une trottinette non électrique, précisément.
Non électrique, s'il vous plaît. Et je m'attable au comptoir.
Alors, Ryoko Sekiguchi, il y a quelque chose d'étonnant, c'est que dans vos remèdes principaux, vous n'avez pas évoqué la cuisine, qui est quand même une grande partie de votre vie, mais dans les remèdes bonus, il y a préparé un plat de ragoût. Vous avez consacré plusieurs ouvrages à la cuisine. L'un des derniers, d'ailleurs, ça s'appelle Le curry japonais, 10 façons de le préparer, aux éditions de l'Épure. Un ragoût, qu'est-ce que c'est? Parce qu'il y a une définition du ragoût.
Ah oui, en fait, un plat, disons, un plat mijoté, je veux dire. C'est un plat, en fait, comme une personne qui nous accompagne. Et en même temps, on peut le laisser un peu, voilà, si on le fait cuire un peu trop, c'est pas très grave. Et souvent, par exemple, quand j'ai une journée entière devant moi et que je sais que je suis à la maison, je fais cuire quelque chose, en fait, rien que pour avoir, disons, une présence qui m'accompagne. Et quand le travail est terminé, je ne sais pas, un article, une traduction, le repas est prêt.
C'est très joli cette idée de présence, Ryoko Sekiguchi, avec des choses qui normalement sont considérées comme inanimées, parce que on va parler de fantômes pour terminer l'émission, mais dans vos remèdes il y a aussi, et ça c'est une présence olfactive, acheter un parfum pour conjurer le sort, c'est-à-dire...
Ah, alors vous savez, par exemple, bon, quand il y a des choses bien ou bien mal, mais marquant, j'achète un parfum pour remémorer ce moment. Et je me souviens toujours, donc ce moment-là, par exemple, je sais pas, quand j'ai passé le concours de Villa Médicis, je me suis acheté un parfum. Et chaque fois que j'ouvre ce flacon, je vois ce moment. Et pareil, une fois, en fait, quand j'ai eu la rupture avec quelqu'un, j'ai acheté. Et là, je sais que le malheur est renfermé dans le parfum, et après, en fait, 3 ans plus tard, 4 ans plus tard, je peux ressentir avec une douce nostalgie. Et là, aujourd'hui, j'ai pensé à vous, je porte un parfum qui s'appelle la clima, les larmes, oh. Mais en même temps, c'est une sorte de catharsis. Après avoir pleuré, là, il y a, voilà, c'est en soi le remède à la mélancolie.
Vous associez des souvenirs à des odeurs.
Oui.
Et alors, on termine sur les morts, puisqu'il est toujours question de mort au début, au milieu, à la fin, on ne peut pas y échapper. Mais chez vous, c'est poétique, comme beaucoup de choses, Ryoko Sekiguchi. Alors, vous avez fait plusieurs ouvrages avec des fantômes dedans, notamment Dîner Fantasma, qui est un ouvrage illustré avec les photographies spirit du designer Felipe Ribon, qui était pensionnaire à la Villa Médicis avec vous. Et vous prépariez avec lui des dîners pour les fantômes. Alors, votre remède, c'est de dîner avec les morts. Comment fait-on pour dîner avec les morts?
Ah, vous savez, je le fais assez souvent. Je le fais peut-être plus que de préparer un plat mijoté. Oui.
Mais comment fait-on?
J'ai fait une fois un repas avec une mort à la maison de la poésie, en invitant 160 personnes.
Des vivants ou des morts?
Vivant. Et oui. une mort. D'accord. Voilà. Et c'était l'occasion de rencontres littéraires, donc avec, de dialogue avec Christian Blotowski. Et à cette occasion-là, j'ai fait un plat, que faisait justement ma grand-mère et qui se trouve dans ce livre, Dîner Fantasma. Et j'ai fait goûter, enfin, ma grand-mère était là. Et, avec 160 personnes, que j'aimais bien, que j'aimais, en fait, une de mes amies à Paris. Et j'ai présenté ma grand-mère à tout le monde.
Votre grand-mère qui a disparu?
Oui, depuis 30 ans.
Mais comment a-t-elle goûté ce repas? Quel est le rituel? Je veux dire, on invite un mort à voix haute?
Ah, bah vous savez, il y a plusieurs recettes. Il y a plusieurs recettes. On peut convoquer par la fumée, par les odeurs, par les sons, par les recettes. Oui, non, mais on peut en faire presque un livre là-dessus.
Bah, vous en avez fait d'ailleurs.
Oui, ça c'est déjà.
Dîner fantasma. Et j'ai parlé de fantômes. En tout cas, tout est poésie chez vous, Ryoko Sekiguchi. Vous avez écrit aussi manger fantôme. Mais ça, c'est pas sur les fantômes à proprement parler. C'est sur cette sorte de chose dont on n'arrive pas à s'emparer, qui est vaporeuse comme les nuages, ou le goût des aliments, ou en français on dirait fade, mais en japonais ça a un sens positif, c'est plutôt délicat.
Mm-hmm.
Et là vous avez évoqué Christian Boltanski, mais justement vous dites dans une interview qu'il vous a appris à être fantôme. Alors qu'est-ce que c'est qu'être fantôme ?
Être fantôme, c'est être une existence qui est purement faite de... dans mon cas, de l'écriture, et dans son cas, de travail artistique. Donc il est dit, même quand je regarde la télé, je travaille. Mais ça veut dire que je suis de plus en plus, disons, en retrait par rapport à la vie. Ça ne veut pas dire, justement, c'est autre chose que d'être en retrait dont on a parlé au début, parce que il est entièrement dans l'art. Et pareil... Être dans l'écriture, ça ne rend fantomatique. Bah, quel fantôme heureux.
Vous êtes un fantôme heureux, Ryoko Sekiguchi?
Ah oui, mais vous voyez.
Vous avez l'air, c'est vrai, vous avez l'air d'un fantôme heureux. Merci beaucoup d'être venu dans cette émission.
Merci beaucoup.
Vos trois derniers ouvrages sont Le curry japonais, 10 façons de le préparer, joli petit livret paru aux éditions de L'Épure en 2020, Sentir avec Hervé Deschamps, Pierre Gagnère et Marc Janson aux éditions JBE, et 961 heures à Beyrouth et 321 plats qui les accompagnent, que j'ai dévoré en une nuit. Très joli voyage paru chez POL en avril dernier. Je signale au passage que ma consoeur Laure Grand-Besançon fait paraître le 6 mai aux Arènes le livre adapté de son fabuleux podcast pour enfants, Les Odyssées. Chers auditeurs, la programmation musicale, Les Remèdes sont comme toujours sur le site de l'émission. Nous sommes sur les réseaux sociaux. J'espère que votre âme a la sérénité d'un sucre antiquaire. Je vous retrouve dimanche prochain à 10h10.